Declaro aberta a nossa sessão.
Nous allons inaugurer notre séance. J'ouvre la session.
Muito bem-vindos.
Soyez les bienvenus. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée de la République portugaise, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Madame la représentante de la délégation de l'Assemblée de la République auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers lauréats, Mesdames et Messieurs. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de remise du prix du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Cette cérémonie se tient tous les ans dans cette enceinte, l'Assemblée parlementaire portugaise. C'est un moment de réflexion sur ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est la démocratie et les droits humains. Ce sont des valeurs fondamentales pour la mise en œuvre de l'état de droit, pour la construction de sociétés plus équitables, pour la poursuite d'un développement durable et pour la défense d'un monde plus pacifique. Il ne s'agit pas ici de paroles creuses. D'ailleurs, on ne peut pas se permettre d'avoir des paroles creuses. Il dépend de cela le bien-être des populations et de leur possibilité d'améliorer leurs conditions de vie. Raison pour laquelle, tout autant que nous sommes, nous devons être au quotidien des partisans, des défenseurs de la démocratie et des droits humains. Voyons les exemples de dévotion de nos deux lauréats, Amina Boyash et l'association Global Compass of Human Rights. Amina Boyash, qui préside à l'heure actuelle le Conseil national des droits humains du Maroc, a été infatigable dans la promotion de l'égalité de genre en attirant l'attention sur la contribution des femmes au sein de nos sociétés. Elle a également embrassé des luttes de combat contre la peine de mort et contre la torture. C'est une action qui nous inspire et qui a une projection bien au-delà des frontières de son pays. Elle se répand dans le continent africain et dans d'autres régions du monde. Le Global Compass of Human Rights agit pour l'éducation accessible dans le domaine des droits humains, et elle a apporté une contribution très concrète dans la formation de nouveaux partisans pour la dignité humaine, de l'égalité, de la liberté, du développement durable, de la démocratie et de l'état de droit, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou encore en Europe. La démocratie et les droits humains sont des valeurs qui sont aussi importantes dans le Nord que dans le Sud. Je dirais même, ce sont des valeurs qui unissent le Nord et le Sud. Le prix du Centre Nord-Sud que nous remettons aujourd'hui, sous la forme d'une sphère et non pas de deux demi-sphères, symbolise précisément cette union autour de ces valeurs. Une union qui est d'autant plus importante que nous traversons une époque de grands défis mondiaux auxquels il va falloir trouver des réponses. Un moment d'évolution dont certains n'hésitent pas à la qualifier de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que le monde est en mutation accélérée, ce qui me conduit à penser à Luís Vasco de Camões, un poète portugais né il y a 500 ans, et qui disait « les temps changent, les volontés changent, la confiance change, la tranquillité change, le monde est composé de changements et acquiert toujours de nouvelles qualités. » Nous savons très bien que sans perdre les conquêtes de la démocratie et des droits humains, il va falloir naviguer sur ces flots de l'incertitude. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, l'ambassadeur Francesca Camilleri-Wettiger. Monsieur le Président de la République portugaise, Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, chef de la délégation portugaise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mesdames et messieurs parlementaires de l'Assemblée portugaise, chers lauréats du prix Nord-Sud, directrice exécutive du Centre Nord-Sud, membres du comité exécutif du Centre Nord-Sud, excellences, mesdames et messieurs. L'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice, où qu'elle soit. Ces mots puissants prononcés par Martin Luther King Jr. résonnent plus fort que jamais aujourd'hui. Alors que nous avons le privilège de participer à cette belle cérémonie dans cette bâtisse aussi impressionnante grâce à l'amabilité de nos hôtes et que nous sommes là pour célébrer un événement heureux, des millions de personnes dans le monde vivent dans une situation de guerre qu'elles n'ont jamais appelée de leur vœu. Elles vivent une guerre qu'elles n'ont jamais voulu, sont témoins de destruction au quotidien, subissent des pertes, des douleurs, des souffrances et font face à de grandes injustices que nous ne pouvons même pas imaginer. Notre monde semble de plus en plus divisé aujourd'hui et l'avenir plus incertain que jamais. Nous assistons à la montée de la méfiance, des tensions, de la haine et de la violence dans le monde entier, avec un mépris croissant pour les valeurs fondamentales des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. En ces temps particulièrement difficiles et défiants, la mission du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe est bien de promouvoir le dialogue interculturel, la coopération, la compréhension mutuelle et l'échange d'idées. Et cette mission est de la plus haute importance. La démocratie, l'état de droit sont de la plus haute importance, de fait. Et grâce à l'initiative du prix Nord-Sud, nous comprenons l'importance que revêt l'expression d'être capable de se lever et d'agir contre les injustices et les violations des droits de l'homme en honorant ceux qui le font avec courage, qui consacrent leur temps, leur énergie, leurs ressources à défendre, promouvoir et développer une culture de protection des droits humains, de solidarité et de coopération sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un monde juste et équitable. C'est pourquoi nous sommes heureux de fêter aujourd'hui, de célébrer de remarquables champions des droits humains, Madame Amina Boyache et le Campus mondial des droits de l'homme. Madame Amina Boyache est visionnaire dans le domaine des droits de l'homme. Elle a fait un plaidoyer en tant que présidente du Conseil national des droits humains du Maroc. Elle a contribué à faire avancer des réformes significatives. C'est un engagement politique sans faille dont elle a fait preuve en faveur de l'abolition de la peine capitale et pour mettre fin au recours à la torture. Elle a également lutté contre la violence et la discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et son action a transformé la vie de millions de personnes, non seulement au Maroc, mais également dans l'ensemble de la région. Le World Campus of Human Rights est un exemple du pouvoir de transformation que revêt l'éducation dans la promotion des droits humains. C'est un réseau qui compte des centaines d'universités dans le monde et le campus a ainsi joué un rôle essentiel dans l'éducation de jeunes esprits, de futurs dirigeants à l'importance des droits humains. En intégrant l'éducation dans les droits de l'homme, dans le monde universitaire, ils ont permis ainsi une compréhension plus profonde des droits humains. Et ils le font toujours à travers le prisme de différentes perspectives régionales, culturelles, Europe, Balkans, Afrique, Asie, Pacifique, Caucase, Amérique latine, Caraïbes et monde arabe. L'attribution du prix Nord-Sud au sein de ce Parlement est particulièrement symbolique. Il s'agit ici d'une bâtisse prestigieuse, synonyme de la démocratie portugaise, une démocratie pour laquelle il a fallu se battre si vaillamment il y a 50 ans, grâce à la révolution des œillets qui a changé le visage de la politique européenne et qui a déclenché des transitions vers la démocratie ailleurs, qui a inspiré d'autres mouvements ailleurs dans le monde. Des générations ont vécu pour pouvoir avoir cette mémoire précieuse qui rappelle l'importance des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit qui ne peuvent pas être considérés comme étant acquis. Alors, inspirons-nous de ces réalisations remarquables, inspirons-nous du dévouement de nos lauréats, de leur détermination inébranlable, rappelons-nous que rien n'est acquis, que ces valeurs fondamentales doivent toujours être renouvelées, qu'il faut les sauvegarder. Utilisons nos énergies, nos efforts, nos ressources, nos plateformes pour nous exprimer, nous lever, agir contre toute injustice et pour nous unir dans la solidarité avec ceux qui endurent de telles épreuves. Et j'en arrive à la fin de mon discours que je terminerai comme je l'ai commencé avec une citation de Luther King. La question la plus persistante et la plus urgente de la vie est la suivante. Que faites-vous pour les autres? Je vous remercie de votre attention. Je donne maintenant la parole à Björn Berg, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président de la République portugaise, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président du Parlement portugais, Monsieur le Chef de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, chère Edith, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud et représentante permanente de Malte auprès du Conseil de l'Europe, chère Francesca, Présidente du Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc, Madame Bouayache, Présidente et Secrétaire générale du Global Campus of Human Rights, Madame Gomez et Monsieur Novak. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs. C'est de fait un grand honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette importante cérémonie dans cette magnifique bâtisse historique et dans ce beau pays qui défend si fermement le multilatéralisme et un ordre mondial fondé sur les règles et qui a célébré cette année les 50 ans de sa révolution des œillets. Nous sommes très reconnaissants au Portugal d'accueillir le Centre Nord-Sud, de soutenir ses travaux et de jouer un rôle aussi constructif et positif au sein du Conseil de l'Europe. Cette année, le Conseil de l'Europe fête ses 75 ans. C'est donc l'occasion de faire le point de tout ce qui a été accompli au profit des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'agit de trois quarts de siècle. C'est donc le moment de réfléchir, notamment à ce que nous devons faire pour relever les défis qui s'opposent à nos valeurs et à la démocratie, qui sont si évidents et si dangereux par les temps qui courent. Certains de ces défis existent de longue date, mais nous voyons ces tendances partout dans l'Europe à différentes échelles. Journalistes sont harcelés, arrêtés, parfois même assassinés en Europe à l'heure actuelle. Les principaux médias sont rachetés par des oligarques et d'autres qui souhaitent dominer la situation, qui souhaitent dominer les dirigeants politiques, qui souhaitent imposer un parti politique unique. La corruption est présente partout en Europe. Les tribunaux, les systèmes judiciaires ne sont pas considérés comme véritablement indépendants. Les élections sont manipulées et de moins en moins de personnes vont au scrutin. La société civile est réduite et ses dirigeants sont arrêtés. Nous voyons la désinformation, les mensonges polluer nos esprits, envahir les réseaux sociaux. Les jeunes perdent espoir, le chômage, les difficultés économiques font des ravages. Et nous voyons en même temps de nombreux jeunes Européens qui sont désabusés à l'égard de leurs dirigeants politiques et des systèmes politiques. À cela s'ajoutent les dangers causés par le monde, par la pollution, par le changement climatique, la perte de biodiversité et d'autres problèmes liés notamment à l'intelligence artificielle, sans compter l'environnement politique de plus en plus polarisé, souvent alimenté par le nationalisme extrême, le populisme, les mouvements anti-droit. Et notre jeunesse est confrontée à cela. Et c'est pourquoi le Conseil de l'Europe a mis en œuvre des actions spécifiques qui, certes, ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de partenariats, nous avons besoin des gouvernements, mais nous avons également besoin de la société civile, plus que jamais une société civile déterminée, ayant les idées claires, afin de défendre les attaques contre les droits humains sur le terrain. Parfois, elles le font à leurs dépens. Leur travail est essentiel. Leur plaidoyer est essentiel, car ils font évoluer les esprits, les cultures et les lois. La liste des lauréats du prix Nord-Sud est à bien des égards une liste d'acteurs qui ont changé la donne. Et aujourd'hui, nous fêtons l'ajout de deux noms sur cette prestigieuse liste. Des lauréats qui ont des réalisations extraordinaires à leur actif. Madame Amina Bouayage, qui est la première femme à présider une organisation de défense des droits de l'homme au Maroc. Et en tant que présidente de l'Organisation marocaine des droits humains, elle a mené de nombreuses campagnes. Je pense notamment à ses campagnes, à son action sans relâche pour l'abolition de la peine capitale. Un objectif que le Conseil de l'Europe a atteint dans ses 46 États membres. Et ce n'est pas tout. Elle a défendu les droits des prisonniers politiques, lutté contre la torture et les disparitions forcées. Et récemment, elle a également mis les technologies et les nouveaux systèmes d'information au service de la protection et de la promotion des droits humains en créant le site Varakati, un site consacré aux droits des femmes marocaines de différentes confessions. C'est un site web spécial qui encourage l'observation citoyenne des élections législatives, qui soutient les valeurs démocratiques dans la société civile. Ces réalisations pionnières, nous les devons à Madame Bouayage. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants, Madame, pour votre travail extraordinaire. Notre deuxième lauréat aujourd'hui est le Global Campus for Human Rights, représenté ici par son secrétaire général Manfred Novak et sa présidente Veronica Gomez. C'est également un travail considérable, celui qui est accompli par le Global Campus. C'est un programme régional de 8 programmes régionaux sur 100 universités pour créer le plus grand réseau mondial d'organisations de défense des droits de l'homme. Cela garantit l'accès à une éducation aux droits de l'homme de grande qualité, une vaste communauté mondiale d'universitaires, d'étudiants, de juristes qui alimentent le dialogue Nord-Sud et qui remet toutes ces questions dans un contexte éducationnel. Les anciens étudiants du World Campus sont désormais dotés de compétences et de connaissances nécessaires pour intégrer la pratique des droits de l'homme dans leur pays, partout dans le monde où qu'ils soient. Ils occupent des fonctions très diverses dans la politique nationale, les organisations internationales, des professions juridiques dans le monde entier, et donc ils investissent dans un avenir meilleur et plus humain. Chers amis, je ne peux que féliciter les deux lauréats très méritants du prix Nord-Sud de cette année. Ils sont liés par leurs valeurs communes et par l'espoir d'un monde meilleur, plus juste, fondé sur les droits. Un monde meilleur pour nous tous. Je vous remercie. Et je donne maintenant la parole à Madame la Présidente de la délégation portugaise de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la députée Edith Estrella. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale portugaise, Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers lauréats, Excellences, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, en mon nom personnel et au nom du président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Theodoros Rosopoulos, et de la délégation portugaise, de saluer les personnes présentes et de féliciter les lauréats 2023, Amina Boyash et le Global Campus of Human Rights. L'année 2024 est une année spéciale. Une année spéciale pour le Conseil de l'Europe, qui fête ses 75 ans d'existence au service des droits humains et de la démocratie. Une année spéciale pour le Portugal, qui commémore les 50 ans de la révolution des œillets, c'est-à-dire de la démocratie et de l'état de droit. Le Portugal fête également le centenaire de la naissance de Mário Soares, qui en 1976, il était alors Premier ministre, a sollicité l'adhésion de cette jeune démocratie portugaise à la plus ancienne organisation européenne défenseur de la démocratie et de l'état de droit. Le 22 septembre prochain, cela fera 48 ans que le Portugal a déposé l'instrument d'adhésion au Conseil de l'Europe, devenant ainsi le 19e État membre du Conseil de l'Europe. Depuis 1995, le Conseil de l'Europe décerne chaque année le prix Nord-Sud à deux personnalités ou organisations, une provenant du Nord, l'autre du Sud, mais toutes deux déterminées à défendre les droits humains et l'état de droit. Et ce prix prestigieux peut-être signalé à la lumière des personnes qui ont été remerciées, telles que Mário Soares, Jorge Sampaio, António Guterres et des hommes et femmes de référence à l'échelle planétaire, Kofi Annan, Mikhail Gorbatchev, Xaxanam Guzmán, Lula da Silva, et des femmes comme Marie Robinson, Graça Machel, Emma Bonino et Simone Veil, et désormais Madame Amina Boyash. Je souhaiterais féliciter Madame Boyash pour son activisme infatigable dans la défense des droits humains depuis les années 80. À l'époque, elle était inspirée par les mouvements de lutte en faveur des prisonniers politiques dans les dictatures de l'Amérique du Sud et elle s'est consacrée à la défense des prisonniers politiques au Maroc. Son curriculum est long et bien connu. Il s'agit toujours de renforcer les liens entre les nations en faveur de valeurs communes. Et tout cela l'a élevé au poste le plus élevé du mouvement global des droits humains en 2006. Elle a été la première femme élue à une grande ONG au Maroc. Entre 2010 et 2013, elle a été vice-présidente et secrétaire générale de la Fédération internationale pour les droits humains, une fédération qui regroupe 184 organisations de 100 pays. Depuis décembre 2018, elle est présidente du Conseil national des droits humains du Maroc. Elle est membre fondateur. Et elle s'intéresse particulièrement aux droits des femmes et des réfugiés et des migrants. Elle lutte contre la torture et en faveur de l'abolition de la peine capitale qui, comme elle le défend, allie la protection et la promotion des droits humains parce que, et je cite, « la protection des droits humains peut être comparée au travail d'un urgentiste. En faire la promotion est un travail à long terme. » Chère Madame Boyache, en 2019, j'ai émis un avis à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc. Et dans ce rapport, je reconnaissais les progrès réalisés sur la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes depuis 2015, mais également ce qui concerne l'intégration des migrants et la lutte contre le racisme. Et je suis certaine que certains de ces progrès sont le résultat de votre apport, ou en tout cas, vous ont eu comme moteur. Et nous pouvons aujourd'hui dire qu'il y a une diminution de la violence de genre, des progrès dans le domaine du droit à l'avortement, à la protection des droits de la communauté LGBTI et de la protection de la vie privée et familiale de façon générale. Les politiques d'égalité de genre ne sont pas des politiques mineures et ce ne sont pas non plus des questions de femmes. Ce sont des questions qui concernent toute la société et qui influencent toute l'organisation sociale. L'égalité de genre est une question de droit humain. Il s'agit également de respecter les conditions sine qua non pour parvenir aux objectifs de croissance, d'emploi et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour transformer le monde. Nous devons défendre le courage lorsqu'il y a la peur. Nous devons promouvoir l'accord lorsqu'il y a conflit et inspirer confiance lorsqu'il y a désespoir. Je viens de citer ces paroles sages prononcées par Nelson Mandela. Je pense notamment à l'autre institution lauréate, le Global Council of Human Rights, représenté aujourd'hui par sa présidente Veronica Gomez et par son secrétaire général Manfred Novak, à qui j'adresse mes félicitations. Le Global Campus of Human Rights est un réseau international qui siège à Venise, composé par plus de 100 universités, dont fait partie, entre autres, la faculté de droit de l'Université Nouvelle de Lisbonne. C'est un réseau mondial qui donne accès à une éducation de haut niveau concernant les droits humains, la démocratie et qui promeut le dialogue Nord-Sud. Par le biais de plusieurs programmes, dont l'European Master Program in Human Rights and Democratization est un excellent exemple. Elle fait ainsi la formation et la préparation de la prochaine génération de professionnels des droits humains sur la démocratie. En favorisant le mouvement social favorable à l'éducation de qualité pour tous, c'est une force motrice du développement durable et inclusif qui permet d'unir le monde universitaire, les étudiants, les avocats et autres spécialistes au sein d'un réseau mondial, le Global Campus of Human Rights. C'est un symbole d'excellence, c'est un cas exemplaire de la façon dont l'éducation peut transformer le monde, comme le disait Mandela. En 1949, année de la création du Conseil de l'Europe, notre grand penseur Eduardo Lorenzo a publié un essai intitulé « L'Europe ou le dialogue qui nous manque ». 75 ans se sont écoulés depuis et j'ose affirmer qu'il manque encore le dialogue et la coopération entre l'Europe et ses voisins de la Méditerranée, mais également avec d'autres continents. Il nous manque encore du dialogue au sein de l'Europe même pour combattre le populisme et les forces extrémistes. Nous sommes à quelques jours des élections au Parlement européen. L'intensification des campagnes de désinformation, la possibilité donnée aux partis populistes et d'extrême droite d'améliorer leur représentation parlementaire est un thème qui doit inquiéter tous les démocrates. À l'heure actuelle, les forces populistes et les extrémistes remettent en question l'état de droit et les valeurs qui ont fondé le régime démocratique. C'est un discours qui incite à la haine, qui incite au racisme et à la xénophobie. Et c'est là que l'on voit le rôle du Global Campaign of Human Rights, car nous savons que ce n'est que par l'expression de la citoyenneté que nous pourrons vaincre l'obscurantisme, l'arrogance et la peur. Les vérités doivent être nues, les mensonges doivent être vêtus. En termes de faits alternatifs et de post-vérités, on ne peut pas se contenter du voile diaphane de l'imagination. Il faut rechercher la nudité crue de la vérité, comme le disait l'écrivain portugais dans son allégorie, Essai de Queiroz. Combien nous manque aujourd'hui l'ironie subtile de cet écrivain, Essai de Queiroz, pour nous aider à lutter contre la désinformation. Je vous remercie.
La parole à la lauréate, Madame Amina Bouayache.
Pronto. Não é essa a indicação que eu tenho, Sr. Presidente, mas...
Alors, pour suivre le script, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président de l'Assemblée de la République vont maintenant remettre le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2023 au lauréat.
Recebo o prêmio Nord.
Le prix Nord-Sud 2023 est remis à Madame Amina Bouayache.
Suas Excelências, o Presidente.
Ses Excellences, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président de l'Assemblée de la République remettent le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2023 au Global Campus of Human Rights, représenté ici par sa présidente, Madame Veronica Gomez, et son secrétaire général, Manfred Novak.
Agora sim.
Alors maintenant, oui, je donnerai la parole à Madame la lauréate Amina Bouayache.
I am so small.
Madame dit qu'elle se sent toute petite à la tribune.
Assalamu alaikum. Azoul et Flaouen. Comme vous savez, nous avons deux langues officielles et donc j'ai décidé de vous saluer par mes deux langues officielles. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Votre Excellence, le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, honorables membres du Parlement de la République de Portugal, chers collaureates du Global Campus for Human Rights, Monsieur l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Portugal, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Bien, effectivement, c'est avec une immense gratitude et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui dans cette enceinte pour accepter le prix Nord-Sud. Je vous remercie. Je remercie le Conseil de l'Europe et le Centre Nord-Sud pour cette grande distinction. L'honneur que vous m'accordez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, n'est pas simplement une reconnaissance de mes efforts individuels pour la défense des droits de l'homme, mais il est également, pour moi, un témoignage des progrès majeurs réalisés par mon pays pour la dignité et la liberté des Marocaines et des Marocains. Cet honneur rêvait pour moi une signification toute particulière puisqu'il coïncide aujourd'hui, cette année, avec le 20e anniversaire de la mise en place de l'instance équitaire aux conciliations. Comme vous le savez tous, peut-être, cette instance représente un exemple pionnier de justice transitionnelle dans le monde arabo-musulman. Et par son focus sur la réparation communautaire, son adoption de l'approche genre et l'indemnisation effective des victimes des violations graves des droits de l'homme, constitue pour nous militants et activistes une expérience unique dans le monde. Cette étape fondamentale, mesdames et messieurs, dans la construction de l'état de droit au Maroc, a aussi été le plus important, était fondatrice d'une approche que j'appellerai approche marocaine des droits de l'homme, basée sur une interaction constante entre société civile et l'État dans ses différentes institutions, caractérisée pour moi par trois éléments que je voudrais partager avec vous. Première, le consensus entre toutes les parties prenantes plutôt que le compromis. Deuxième élément, l'innovation à même d'élaborer des réponses idoines, les mieux adaptées au contexte national et bien sûr à la société marocaine. Le troisième élément, l'inclusivité de tous les acteurs dans une approche participative incluant les 12 régions du royaume. Pour moi, c'est grâce à cette approche qu'une recommandation de la société civile marocaine pour la création d'une commission de vérité fut adoptée en 2000 par le Conseil consultatif des droits de l'homme, prédécesseur du Conseil national des droits de l'homme que j'ai l'honneur de présider, avant d'être acté par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2004. De même, la réforme du Code de la famille n'aurait pu se faire sans la vision fédératrice de Sa Majesté qui a su transformer l'hésitation, et une hésitation très très profonde, de la société en l'an 2000 sur la question des droits de la femme et l'égalité des genres à un succès décisif et rare dans la région. C'est avec cette même vision, mesdames et messieurs, que le Maroc s'apprête depuis quelques mois à réformer pour la seconde fois en 20 ans son code de la famille, ou que la profession des adoul, notaire musulman, fut ouverte aux femmes sur décision royale, marquant ainsi un tournant historique et une véritable révolution pour les femmes musulmanes à exercer cette fonction. Ainsi, pour moi, le dialogue entre la société civile et les différents acteurs institutionnels a-t-il permis la mise en œuvre des principes et valeurs du système international des droits de l'homme de manière adaptée, opportune, ainsi que leur appropriation et élargissement progressive à l'ensemble de la société. Société civile, en donnant l'impulsion à ce processus normatif, encourage l'internalisation des préceptes des droits de l'homme et le passage de l'action publique par des acteurs concernés. En outre, ce processus pour moi normatif des droits de l'homme n'est pas unidirectionnel, mais multidirectionnel. On atteste les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de lutte contre la torture, traitement cruel, inhumain et dégradant. La campagne nationale des 20 ONG que j'ai l'honneur de coordonner en 2009 pour deux objectifs importants, la ratification de la Convention de protection de toutes les personnes de la disparition forcée et le protocole facultatif à la Convention contre la torture. On a eu raison et on a pu en 2013. Et dans le mécanisme actuellement, le mécanisme national de prévention de la torture a été mis en place, Conseil national des droits de l'homme en 2019, fut en partie basé sur la recommandation de l'instance équité et réconciliation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. Partenariat qui lie le Conseil national des droits de l'homme avec la Direction générale de la Sûreté nationale pour la prévention et les visites des lieux de privation de liberté en la matière. Autre que la Direction générale de la Sûreté nationale, les programmes de formation périodiques avec la Gendarmerie royale et d'autres responsables des lieux de privation de liberté peut être considéré comme unique en son genre dans la collaboration et le dialogue de lutte et de prévention contre la torture. C'est cette même approche, mesdames et messieurs, institutionnelle que nous souhaitons partager avec nos sœurs et frères des institutions nationales des droits de l'homme de mon continent, l'Afrique, avec la création que nous avons mis en place, réseau des mécanismes nationaux pour la prévention de la torture en Afrique l'année dernière à Marrakech et dont le secrétariat est basé à Rabat. Les réformes donc structurantes, excellences, mesdames et messieurs, en matière des droits de l'homme dans mon pays n'auraient sans doute pas abouti sans l'implication de tous. Car la création d'un état de droit est un projet sociétal qui concerne des nations entières et ne doit nullement être perçu comme une finalité inéluctable ni une contrainte inévitable. Il s'agit d'un choix volontaire et souverain qui s'impose d'allier dans un équilibre très délicat, et je peux vous assurer, parfois très, très délicat. Progrès, égalité, développement et démocratie. C'était là le processus que nous avons pu mettre par cette approche des droits de l'homme au Maroc. C'est cet équilibre que l'approche marocaine des droits de l'homme que je viens de décrire s'efforce de maintenir depuis plus de 20 ans. À la question « Comment traduire les droits de jure ?» tels que inscrits dans plus d'un tiers des 180 articles de la Constitution en droit de facto. L'approche marocaine des droits de l'homme doit s'efforcer de trouver tous les jours, face à toutes les questions, les réponses adéquates et adaptées, lesquelles prennent en compte les spécificités et les dynamiques particulières, puissent assurer à tous un exercice effectif et réel de leurs droits universel. Car le défi pour tous, pour tous les pays et les acteurs, et notamment pour les pays du Sud, d'où je viens, reste l'effectivité des droits des citoyens. Et je demeure convaincue que la construction d'un État de droit ne peut se faire sans la construction d'un État qui non seulement garantisse les droits de ses citoyens, mais défende de manière active leur liberté et leurs intérêts, le premier de ces droits, le droit à la vie. La multiplication et la globalisation, mesdames et messieurs, des défis ne peuvent en aucun cas remettre en question notre engagement pour les droits humains et notamment le droit à la vie. Ce droit original, suprême et absolu, le seul droit absolu dans les normes internationales, auquel tous les droits sont subordonnés et duquel tous les droits sont découlent. Toute atteinte à ce droit ne peut être tolérée. Ni la peine de mort, ni les atrocités des conflits ne peuvent être justifiées ou ignorées dans un monde qui se veut non seulement humanitaire, mais, espérons-le, humain. Dans ce monde plus divisé, plus polarisé que jamais, entre pays du Sud et pays du Nord, les initiatives comme le prix Nord-Sud doivent servir d'exemple. Armés de la conviction que nous sommes tous égaux, il nous incombe de rappeler à ceux qui l'auraient peut-être oublié que la vie est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je saisis cette illustre occasion de remise des prix Nord-Sud pour évoquer la lourde responsabilité qui est la nôtre de par notre histoire commune et nos traditions séculaires de coexistence pacifique d'œuvrer pour un engagement conjoint pour les valeurs communes qui nous unissent, l'égalité, solidarité et la non-discrimination. Pour finir, je souhaiterais sincèrement remercier aussi le peuple portugais et ses représentants ici de nous avoir si chaleureusement accueillis aujourd'hui au Palácio de São Bento, symbole pour moi de la richesse de cette histoire du Portugal. C'est la deuxième fois, pour certains qui ne savent pas, c'est la deuxième fois que je me trouve à l'intérieur de cette enceinte, magnifique bâtiment. La première fois, j'accompagnais un homme que j'ai l'honneur d'appeler humblement mon coléréa aujourd'hui. Un homme qui m'a beaucoup appris sur la valeur de l'action collective et l'importance de l'objectivité, de la rigueur et de l'éthique dans notre travail de défense des droits humains. Un homme qui se tenait également ici alors qu'il recevait ce prestigieux mieux prix, l'ancien Premier ministre du Royaume du Maroc, M. Abdelrahman Youssefi, que son âme repose en paix. Il fut ainsi le premier Marocain à recevoir ce prix, suivi de mon cher ami, M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté, dont l'engagement constant pour le dialogue des cultures doit nous inspirer et servir d'inspirer nos combats et nos actions. Je souhaiterais enfin remercier tous ceux présents de m'avoir donné le privilège de partager ces quelques réflexions, pas uniquement sur mon parcours, mais surtout sur les préoccupations personnelles en tant que défenseur marocain des droits de l'homme et défenseur africain des pays du Sud. Car notre travail n'est pas un travail ordinaire, mais c'est pour moi une vocation existentielle, un étau qui demande discipline, détermination et humilité surtout. C'est la croyance profonde en l'humanité de tous et la conviction que la dignité, la justice et l'égalité sont notre destin commun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
La parole maintenant à la lauréate Veronica Gomez, représentant le Global Campus of Human Rights.
Thank you. Your Excellencies,
Excellences, Monsieur le Président de la République du Portugal, Professeur Marcelo Rebelo de Sousa, Président de l'Assemblée de la République, Monsieur José Pedro Aguiar Branco, Madame la Présidente de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame Edith Estrela, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Monsieur Bjørn Berg, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, ambassadrice Francesca Camilleri, illustre membre de l'Assemblée de la République portugaise, membre du Centre Nord-Sud, et bien sûr, chère co-lauréate et invitée de marque. C'est un privilège que d'accepter le prix Nord-Sud de cette année au nom des organes directeurs du Global Campus of Human Rights, une association d'universités basée dans le monde entier, des universités qui sont unies par la conviction et la tâche de promouvoir les droits de l'homme universels dans des perspectives régionales et interdisciplinaires. Cette année-ci, le prix est décerné dans un contexte de conflits armés bilatéraux et de crises humanitaires qui ont des ramifications régionales et mondiales. Mais également dans le contexte de l'érosion des valeurs démocratiques, d'hostilité à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, d'incertitudes existentielles liées à des formes de technologie, de l'information encore mal comprises et aussi de la crise climatique qui ne cesse d'évoluer. Pourtant, c'est dans ces contextes-là que la connaissance et la formation des travailleurs humanitaires, des agents publics, des fonctionnaires internationaux, des professionnels d'innombrables disciplines et des citoyens actifs brillent à travers les obstacles. Les obstacles, qu'ils soient de nature matérielle, juridique, économique, politique, pour faire la différence. Cela en sauvant des vies dans des situations d'urgence, en assurant une vie meilleure et durable pour leur communauté, en recherchant la justice face à l'injustice. L'éducation est un bien essentiel pour parvenir à la paix, à la démocratie, à l'état de droit, à la justice sociale, au développement et aussi au respect des droits individuels et collectifs. La reconnaissance des droits de l'homme par le droit national et international protège toutes les personnes sans discrimination. Et de ce fait, pour que ces protections soient vraiment appliquées, il faut d'une part que toutes les branches du gouvernement agissent de manière informée et coordonnée, et par ailleurs, que la population comprenne comment exercer ses droits et comment demander des comptes aux autorités ainsi qu'à d'autres personnes responsables lorsque ces droits sont violés. Mais cela n'est possible qu'au sein de sociétés qui ont une culture fondée sur les droits de l'homme. Une culture des droits de l'homme est un ethos imprégné d'aspirations, de convictions, de principes et de pratiques fondées sur l'égalité, la justice et la durabilité. La construction de cet ethos repose sur notre compréhension progressive de l'environnement grâce à la science et sur notre expérience sociale de coexistence au sein de nos propres familles, de nos propres communautés et avec d'autres communautés et d'autres espèces sur la planète. La construction d'une culture des droits fondée sur l'égalité, la justice et la durabilité n'a pas été une tâche exempte de régression. Et c'est pourquoi l'éducation, qui n'est reconnue que comme un droit devrait être accessible à tous, mais qui n'est pas encore assuré à tout un chacun, y compris au XXIe siècle, est un outil essentiel dans cette démarche. La communauté universitaire qui ne cesse de croître, qui est représentée par le campus mondial, cherche à apporter une contribution significative à l'éducation, à l'engagement, à la mobilisation et en fin de compte, à la défense et à l'amplification de la connaissance des droits de l'homme. Dans cette tâche, le Global Campus cherche à transcender toute dichotomie entre Nord et Sud. Nous sommes une institution composée de différents éléments situés au Nord, mais aussi dans le Sud, qui collabore sur un pied d'égalité et prospère grâce à la fertilisation croisée. Ensemble, les diverses composantes du Global Campus font parler les droits de l'homme dans plusieurs langues, mais avec un même cœur et un même esprit, en vue d'une vision commune, une culture des droits de l'homme. Au nom des organes directeurs du Global Campus of Human Rights, j'aimerais remercier le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe d'avoir décerné ce prix en reconnaissance du rôle de l'éducation aux droits de l'homme. Je remercie également chaleureusement l'Assemblée de la République du Portugal et le président de la République du pays qui nous accueille pour cette cérémonie dans un geste qui renforce notre culture commune des droits de l'homme. Je vous laisse maintenant avec le secrétaire général du Global Campus, le professeur Manfred Novak. Merci. La parole au lauréat Manfred Novak, représentant le Global Campus of Human Rights, son secrétaire général. Excellences, mesdames et messieurs, lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne en 1993, les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement souligné que tous les droits de l'homme sont universels, égaux, indivisibles et interdépendants. Il s'agissait d'un compromis entre le Sud global et le Nord global. Alors que les gouvernements du Sud acceptaient l'universalité des droits de l'homme, les gouvernements du Nord reconnaissaient l'égalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme. Cela veut dire que les droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits à la sécurité sociale, à un niveau de vie adéquat, à l'égalité d'accès aux soins de santé et à l'éducation, doivent être traités sur un pied d'égalité avec les droits civils et politiques. La Constitution portugaise de 1976 a souvent été saluée comme modèle d'égalité entre ces différentes catégories de droits de l'homme. En outre, de nombreux États africains et asiatiques ont également souligné que les droits de l'homme collectif, tels que les droits des peuples à l'autodétermination, au développement et à un environnement propre, sain et durable, devraient être inclus dans la notion d'égalité et d'interdépendance de tous les droits de l'homme. Hélas, de nombreux gouvernements du Nord global continuent à donner la priorité aux droits dans leur politique intérieure et extérieure, aux droits civils et politiques, tandis que de nombreux gouvernements du Sud global mettent en valeur ou mettent en question l'universalité des droits et pointent les valeurs occidentale. Cela remet en cause le compromis historique de la Conférence mondiale de Vienne, un moment où les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, au fond, sont de plus en plus menacées, et cela dans bien des régions de notre planète. Je considère pour ma part que l'attribution du prestigieux prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe au Global Campus of Human Rights rappelle que les droits de l'homme, quelle que soit leur dimension, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et collectifs, ne sont pas seulement des valeurs occidentales, mais le seul système de valeurs universellement reconnu de notre époque. En tant que l'institution d'enseignement post-universitaire des droits de l'homme de plus grande ampleur, le campus mondial des droits de l'homme, avec plus de 100 universités participantes dans toutes les régions du monde, 8 programmes master régionaux en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, dans le monde arabe, en Asie centrale, en Europe du Sud et du Sud-Est et en Europe, et avec des milliers de diplômés travaillant comme ambassadeurs des droits de l'homme dans des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des sociétés commerciales et même au sein des universités, prend très au sérieux l'universalité, l'égalité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme. Nous sommes profondément convaincus que seule une approche universelle fondée sur les droits de l'homme permettra de résoudre les crises et les défis mondiaux les plus urgents de notre époque, qu'il s'agisse de l'utilisation croissante des armes et des guerres pour résoudre des conflits, ou les crises planétaires qui affectent l'inégalité ou aggravent l'inégalité, l'intelligence artificielle, la polarisation, et je pourrais en citer. Je suis profondément honorée et reconnaissante envers le Conseil de l'Europe, la plus ancienne et certainement l'organisation intergouvernementale pionnière, entièrement dévouée aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'état de droit, envers le centre Nord-Sud en tant que pilier de la mise en œuvre de la dimension extérieure du Conseil de l'Europe, mais aussi reconnaissant envers le gouvernement du Portugal pour avoir décerné ce prestigieux prix Nord-Sud au Global Campus of Human Rights. Ce prix nous encouragera davantage à poursuivre notre travail de formation, former plusieurs milliers de futurs défenseurs des droits de l'homme, en diffusant le message des droits de l'homme universel, de la démocratie et de la durabilité aux quatre coins de notre planète et à défendre les activistes des droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des générations futures à vivre dans un monde meilleur. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur le Président de la République du Portugal, Excellence.
Monsieur le Président.
Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur le Vice-Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur le Président de la Cour des Comptes, Monsieur le Ministre d'État et des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en représentation du président de la PCE, Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Madame la présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, Excellences les lauréats, Madame Amina Babou-Ayash, et Global Campus of Human Rights, représenté par Madame Veronica Gomez et Monsieur Manfred Novak, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des groupes parlementaires, députés, invités, Excellences. Pour moi, c'est toujours un plaisir que de revenir en cette maison pour une cérémonie de remise des prix Nord-Sud. Ce prix reconnaît ceux qui dévouent leur vie à la défense et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la solidarité entre les peuples. Par les temps difficiles que nous vivons, peu de valeurs sont aussi importantes que celles-ci. Il y a un mois de cela environ, nous avons fêté ici même l'arrivée de ces valeurs-là au Portugal. Le 25 avril, la Révolution a permis d'aspirer à la liberté, à une relation entre égaux avec des pays voisins et amis, et de consolider notre démocratie et l'état de droit au Portugal, ce pourquoi nous avons toujours compté sur l'appui du Conseil de l'Europe et le Portugal, et ce n'est pas le fait du hasard, à adhérer au Conseil de l'Europe grâce à Mário Soares juste après la Révolution. Pendant la Révolution et au cours des travaux de l'Assemblée constituante, une délégation de cette Assemblée constituante a rendu visite à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, délégation à laquelle j'ai eu l'honneur de participer étant le plus jeune député. Depuis 1976, le Conseil de l'Europe, qui signale 75 ans de vie, a su s'adapter et évoluer pour répondre aux défis incessants, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, dans des régions plus proches ou plus lointaines. Aujourd'hui, une guerre d'agression sur le continent européen et une situation complexe et dramatique au Moyen-Orient, son rôle, le rôle de cette institution est d'autant plus important. La déclaration de Reykjavik, qui a été adoptée, cela fait un an exactement, a tracé le chemin pour les années à venir et a placé le centre Nord-Sud au centre même de l'action du Conseil de l'Europe face à son voisinage. Une reconnaissance qui est plus que méritée à la mission que le Centre Nord-Sud développe depuis plus de 30 ans maintenant. L'engagement du Portugal par rapport au travail mené par le Centre Nord-Sud est clair et constant, et ce n'est pas une extension de notre engagement de longue date vis-à-vis du Conseil de l'Europe, mais plutôt une façon de continuer de contribuer activement pour disséminer et pour consolider les principes et la coopération dont nous avons pu bénéficier à des moments cruciaux de la vie de notre pays. En affirmant l'importance croissante des relations entre le Nord et le Sud. Dans ce processus, il est essentiel de parler du rôle de tous ceux qui ont déjà été, qui se sont déjà vus décerner le prix Nord-Sud et qui font la différence dans la vie des personnes et des institutions en mettant leurs talents au service des sociétés pour qu'elles soient plus justes et inclusives. Ce sont des sources d'inspiration qui donnent voix et substance à la phrase d'Einstein « Une vie vécue pour les autres est la seule vie qui mérite d'être vécue ». Les lauréats d'aujourd'hui ne sont pas une exception. Madame Amina Boyage a un curriculum vitae extrêmement long et riche au nombre des droits de l'homme dans son pays natal, mais également au niveau régional et à l'échelle mondiale. Dans les innombrables domaines qu'elle travaille, je souligne la lutte pour l'égalité des genres, la lutte contre la torture et l'abolition de la peine capitale. Et si nous prenons cette vie de combat et la biographie de Madame Boyage, je crois pouvoir dire que le destin lui a été tracé dès sa naissance. Parce que lorsque l'on naît le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme ne peut certainement pas ne pas se dévouer à cette priorité qui est la priorité des priorités. Par ailleurs, les droits de l'homme en démocratie et la solidarité entre les nations ne peuvent jamais être vus comme des données acquises à jamais. Il faut s'en occuper pour éviter qu'ils ne s'érodent et surtout travailler ensemble et avec des générations plus jeunes sur le rôle que ces générations ont à jouer dans des sociétés libres et démocratiques qui se construisent incessamment. Et là, c'est le rôle du Global Campus of Human Rights présent dans cette région. Ce réseau d'universités, dont une université portugaise, transforme des jeunes du monde entier dans des défenseurs militants et activistes des droits humains de l'avenir. Ceux qui, nous ne le savons pas, mais il se peut qu'un jour ils viennent ici aussi recevoir ce prix. Et donc je terminerai sur une note de réjouissance et d'optimisme. Reconnaître le travail de deux lauréats du prix Nord-Sud supplémentaires qui s'ajoutent à la liste des lauréats montre qu'il y a un espace encore pour défendre les valeurs du Conseil de l'Europe et qu'en dépit des attaques qui sont portées, des atteintes qui sont portées à ces droits, un peu partout dans le monde, y compris sur notre continent, la lutte pour la démocratie et la dignité humaine n'est pas perdue et devra être vaincue. Il faut reconnaître enfin que tous nous pouvons contribuer au projet d'un monde meilleur. Ne perdons pas cette occasion et surtout, plus qu'un appel en ces temps, c'est une mission de vie.
Chers lauréats, pour votre vie de compromis envers les autres. Thank you.
Merci, chers lauréats, de votre engagement au cours de votre vie pour avoir pensé toujours à autrui. Merci. Je déclare lever la séance de remise des prix Nord-Sud 2023. Merci.